Bassin versant du Léguer, et donc ils sont là. Ils vont se présenter, et puis voilà, si vous avez des questions aussi suite au film, voilà.
Allez-y d'abord. Donc je suis Jean-Yves Lecor, je suis élu d'une petite commune au sud de Lannion, et je suis le président du syndicat d'adduction d'eau de Guascol Trolong. Donc, qui est avec la ville de Lannion et la ville de Perros, les trois piliers fondateurs du comité de bassin versant qui s'appelait à l'époque du Léguer. Alors, je suis donc vice-président également du comité de bassin versant. Le président étant empêché, ben, il m'a prié de vous présenter ses excuses pour ne pas être là, quoi. Et on va essayer de le remplacer du mieux qu'on peut.
Je suis Samuel Joumont, je suis coordonnateur du bassin versant Vallée du Léguer.
Jean-Luc Pichon, je représente Eau et Rivière de Bretagne et je fais également partie du bassin versant Vallée du Léguer et de la PPMA Le Léguer.
Jean-François Jandet, je suis le président de la PPMA du Léguer et je représente également la Fédération de pêche des Côtes d'Armor. Je suis responsable de la commission migrateur à la Fédération des Côtes d'Armor, voilà. Voilà. Et nous sommes donc quatre compétences, je crois, assez différentes, et pour essayer de répondre à vos différentes questions.
Oui, alors, on ne va pas refaire le film, hein, vous l'avez vu, vous aurez l'occasion de le revoir, puisqu'on vous a, dans votre bagage, on vous a donné le film en entier. Donc, c'est qu'un extrait. Les deux tiers du film, puisqu'il y a moins 20 minutes sur 36 qui n'ont pas été visionnés. Alors, pourquoi ce film? Donc, ça a été largement expliqué. En 87, l'ouragan. Quelques temps après la création de la vallée, de l'association de la vallée du Léguer. En 1996, la création du comité de bassin versant de la vallée du Léguer. Donc, il regroupe trois prises d'eau. Et parce que justement la pollution, il y avait de gros soucis de qualité d'eau sur au moins sur les deux prises d'eau en amont. En 2016, les deux structures, Association de la Vallée du Léguer et le Comité de bassin versant de la Vallée du Léguer, ont fusionné pour devenir le Comité de bassin Vallée du Léguer. En 2017, on obtient le label Rivière Sauvage. Et en 2018, il y avait de l'argent la Vallée du Léguer, l'association de la Vallée du Léguer, pardon, avait de l'argent en caisse. Et on a consacré une partie de cet argent à réaliser ce film que vous venez de voir, la réalisation a été confiée à Philippe Laforge, qu'on peut remercier pour la qualité de son travail. Il a passé, pas à plein temps, mais il a été pendant une année à faire des prises de vue sur la vallée du Léguer. Et je crois qu'il a bien perçu les enjeux, la réalité de ce qui se passait. Et donc l'objectif de ce film a été de garder en mémoire les actions menées sur les 25 ans de l'aventure qu'on a tous vécu ici et puis d'autres, quoi. Voilà pour la présentation.
On va laisser du temps aux questions, aux jeux de questions-réponses, vu qu'on est plusieurs personnes à pouvoir répondre, soit sur le film, soit sur la réalisation du film, soit sur les actions menées, soit les questions qu'il va y avoir. Ce que je retiens, et c'est traduit dans le film, en fait, c'est que sur le Léguer, en fait, l'arasement du barrage de Kalinskiek, ça a été un élément majeur en fait, de l'histoire du Léguer, il y a plus de 20 ans maintenant. Et finalement, la déconstruction a été un élément fondateur de nouvelle vie, d'un nouveau projet sur le Léguer. Et donc, on se retrouve un petit peu dans la même situation aujourd'hui sur la Cellune. Et j'espère que l'histoire sera aussi belle sur la Cellune que ce qu'on a vécu là sur le Léguer et qui est bien traduit dans le film, quoi. Donc on est là pour répondre à vos questions.
Oui, Philippe Le Goff, Agrocampus Ouest. Comment vous avez géré l'emprise du barrage à la suite du démantèlement, tant les espaces fonciers et éventuellement agricoles que la rivière elle-même, les usages sur la rivière elle-même?
Oui, c'est... pour ce qui concerne le barrage, eh bien, l'emprise du barrage appartenait à la collectivité. Donc, à cette époque-là, il y avait la structure Vallée du Léguer. C'est après qu'a été créé le bassin versant, je crois. Et donc, il a été décidé de remettre en valeur les terres qui étaient sous l'emprise du barrage, en faisant en créant des activités au niveau agriculture bio. Il y a deux paysans qui ont repris ces terres. Et puis ensuite, il y a eu un chemin de randonnée qui a été créé. On avait vu quand les amis de la Cellune, les amis de la Cellune aussi sont venus nous voir sur le bassin du Léguer. Et puis il restait effectivement toute la zone de rivière qui était sous l'emprise du barrage et sur laquelle on a créé il y a quatre ans. Parce que bon, il y a eu le problème de réadaptation, enfin que le milieu retrouve un fonctionnement naturel. On a créé un parcours no-kill, et qui aujourd'hui connaît une fréquentation relativement importante, puisqu'on a à peu près 400 journées de pêche sur cette portion de territoire. Voilà. Est-ce que ça répond à...
Ouais, juste pour compléter, le site est aujourd'hui copropriété en fait de deux intercommunalités. Donc, on parlait tout à l'heure de reconstruction de ponts, en fait, après l'arasement de barrage. On est un petit peu dans ce cas-là. Finalement, en fait, le site, c'est aujourd'hui un trait d'union entre deux collectivités, donc l'Agnan-Trieur Communauté, Guingamp-Papal Agglomération. Et tout le site, en fait, est aujourd'hui en copropriété. Le travail avec les agriculteurs, c'est par convention, en fait. Il y a des conventions, en fait, qui sont signées avec les agriculteurs, donc qui gèrent le site et qui permettent de maintenir un paysage ouvert, parce que ça a été le souhait aussi partagé, c'est de conserver un paysage ouvert en fait, sur l'emprise de l'ancien plan d'eau.
Alain Crave du laboratoire de géosciences Rennes. J'avais deux petites questions. La première, c'est est-ce que par rapport à la vision que vous avez pu avoir sur le Léguer et la vision que vous pouvez avoir sur la C1, vous notez des points communs ou des différences, surtout dans les cas de figure? Et la deuxième question, c'est est-ce que, de par la fonction de mémoire, mais aussi la fonction de communication du film ou de la promotion de votre action, vous sentez que les acteurs des rivières autour du Léguer, hein, pas forcément très loin, ont été sensibilisés aussi et qu'il y a un aspect très de diffusion des avantages, des atouts que peut procurer la restauration d'un cours d'eau?
Je veux bien commencer à répondre à cette question en disant qu'il y a eu un déclencheur qui a été effectivement dans les années 80, qui a été la pollution, une pollution très importante du Léguer. Et ça a commencé à... Bon, c'était les premières étincelles, en fait, qui ont déclenché une prise de conscience, non pas au niveau du saumon, hein, mais au niveau de l'eau potable. Ça concernait, en fait, toutes les communes du bassin du Léguer, dont la seule ressource en eau potable était le Léguer, puisque ça allait même au-delà du Léguer, puisque le Léguer approvisionne aussi en partie la côte de Granit Grose. Donc ça a été vraiment, le déclencheur, et ce déclencheur-là a créé une certaine identité de territoire et de vallée. Je crois que ça a été l'élément un peu fondateur, bon, bien sûr, qui a été relayé par les ONG, par les élus. Il y a eu un mouvement commun. Et je crois que c'est ça qui a déclenché un peu l'identité de vallée, qui ensuite a été continuée. Par exemple, vous avez vu que chaque année, il y a l'organisation d'une fête du Léguer. C'est toujours pour cette fête du Léguer, se fait des sources jusqu'à l'estuaire, avec les différents acteurs du territoire. Donc, c'est toujours avec ce but-là de donner une notion de territoire aux gens de la vallée. Je crois que c'est ça qui est important. Et ensuite, on a toujours mis autour de la table, si je puis dire, tous les acteurs du territoire. Et c'est-à-dire qu'on a toujours cherché la concertation. Et ma foi, on peut le voir aujourd'hui, ça s'est quand même bien passé. Ça n'a pas toujours été facile, bien sûr. Mais bon, dans l'ensemble... Ça se passe bien et j'espère que ça va continuer.
Vas-y. Oui, je veux un peu enfoncer le clou aussi pour bien expliquer, parce que ça paraît un peu bisounours. Enfin, c'est tellement réussi, ça paraît presque pas vrai, quoi. Et Jean-Luc a eu beaucoup, a eu raison d'insister là-dessus. La question qui s'est posée, c'était d'abord la question de la pollution. Donc ça a été la question de la ressource en eau potable. Donc de fait, le Léguer est devenu un sujet citoyen. Ça, c'est important. C'est-à-dire que là-dessus, il y avait, si vous voulez, un consensus des usagers. Il n'y a pas de miracle, quoi. Il y avait un gros pollueur qui était la société Tilly. Les questions des pollutions diffuses, agricoles, etc., à l'époque, étaient encore relativement peu présentes dans la société. Donc il y avait un auteur à stigmatiser et il y avait des victimes qui étaient tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ça alimente quelque part un sentiment citoyen. On est dans les années 70, où il y a encore un lien social et une vie associative très fort, et la présence, il faut beaucoup insister, Jean-Luc est administrateur d'Eau et Rivière et militant de longue date, tout comme moi d'ailleurs, mais il faut insister là-dessus. Il y avait aussi une association régionale qui, à un moment, a donné un sens politique aux choses, au sens collectif des choses, et était capable également d'engager un dialogue avec les élus et avec l'administration d'État. C'est tout ça qui a fait que s'est constitué un discours politique au sens cité autour de l'eau. Alors ça, je ne sais pas si ça fait différence ou si ça fait rapprochement par rapport à la situation de la cellule aujourd'hui, mais ce n'est pas la même époque, ce n'est pas le même contexte social et ce n'est pas les mêmes événements fondateurs.
Je voudrais quand même préciser pour le gros pollueur qui était la société Tilly, on faisait quand même le grand écart, quoi, hein, parce qu'il était stigmatisé, mais dans le même temps, il fournissait du travail, c'était un abattoir, il fournissait du travail à 700, jusqu'à 700 personnes dans son abattoir, dans une région où, depuis que l'abattoir est fermé, c'est un peu la cata. Il, non seulement aux ouvriers, mais également, il embauchait des gens qui n'avaient pas de grand niveau d'études. Ça a été, il a quand même eu un rôle social et économique important. Avec, en parallèle, il faisait travailler un grand nombre d'éleveurs avicoles qui lui fournissaient la matière première, quoi.
Je crois que le film était trop bien. Mais c'est vrai, intéressant. Je me permets juste de dire un mot, parce que Kermanskelec, c'est quelque chose pour nous, ceux qui s'occupent de la question un peu des barrages et des rivières. C'était le premier grand barrage en France qui était effacé. Premier. Juste après, il y avait ceux de la Loire. Mais cette issue, et c'est une grande différence peut-être, c'est issue des années de combat pour des rivières vivantes et libres, qui étaient... Donc de 89, Loire vivante, et Saône-et-Loire vivante, de laquelle nous sommes nés finalement, notre association, qui s'est battue contre des grands barrages et qui a réussi à convaincre le gouvernement du contraire et qui a commencé à détruire des barrages, ceux qui étaient des moutons noirs, on va dire comme ça. Et Kermanskelec, c'était le premier. Donc, voyez-vous, il y a eu un avant ou un grand débat autour de cette question. Je pense que ça a joué un rôle dans la mise en place du démantèlement à l'époque. Et deuxièmement, il y avait un accompagnement qui était bien conçu de tout le processus. C'est ce qu'on n'a pas toujours fait, ni au deuxième barrage qui a été effacé, Maison Rouge, ni Saint-Étienne-de-Vicomte sur le Haut-Allier. On a bien vu la différence.